Ben, on n'est plus dans la science-fiction, là. Les drones, là, sont vraiment en train de changer la manière de faire la guerre. Et l'un des principaux fabricants de drones, c'est la Turquie. Et la Turquie est devenue un très gros fabricant et vendeur de drones militaires grâce notamment à une technologie canadienne, une caméra ultra sophistiquée qui est fabriquée par une entreprise ontarienne. Et là, le problème, c'est que le Canada a signé des ententes, a signé des traités, notamment le traité sur le commerce des armes. Alors, est-ce qu'on est en train de violer notre propre signature de par ces caméras ultra sophistiquées qu'on vend à la Turquie, qui par la suite vend des drones qui sont utilisés dans les conflits militaires, par exemple en Syrie, en Irak ou en Libye. Les caméras sont utilisées pour faire du ciblage, puis éventuellement, ça sert à guider les missiles vers les cibles. Alors, c'est une bonne question. On verra bien ce que Justin Trudeau va faire avec cette patate chaude. Mais entre-temps, moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous parler du rôle que les drones jouent de plus en plus dans les conflits militaires. J'en ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui avec Francis Langlois. C'est un spécialiste de la question des armes. Il est membre associé à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Parlez-nous du rôle que les drones jouent de plus en plus dans les conflits militaires.
Évidemment, ils servent à faire de la surveillance et ils servent à éliminer des cibles. Hein. Donc, certains drones sont vraiment faits pour ça. Donc, on pense, par exemple, au MQ-1 Predator, donc de l'armée américaine, qui vraiment est armé avec des missiles, évidemment du matériel de surveillance, probablement le même genre de matériel de surveillance dont on parlait tout à l'heure, là, et donc qui servent donc à éliminer des cibles. Sinon, vous avez d'autres genres de drones qui, eux, sont à la semi-autonome, hein, comme le Global Hawk, qui sont des immenses appareils qui servent à surveiller de larges territoires. Et puis, ces appareils-là, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit « allez à cet endroit-là ». Et l'appareil est capable par lui-même de se rendre à l'endroit et de patrouiller de façon autonome. Il reste qu'il y a un opérateur, et vous voyez que j'ai mis opérateur, non pas pilote. Hein. Donc, il y a un opérateur qui va décider des cibles et qui va lui dire de regarder peut-être à cet endroit-là plutôt qu'à celui-ci. Mais cet appareil-là est quand même semi-autonome. Et à côté de ça, je vous en donne un dernier, je sais que je vous énonce un petit peu sur les trucs un peu techniques, mais vous avez le Harpy qui a été développé par Israël, qui est une espèce de drone intelligent ou un missile intelligent, si vous préférez, qui est fait pour identifier des cibles, donc essentiellement du matériel de détection comme des radars, et de façon tout à fait autonome, si on le lance dans les airs et qu'il se promène et qu'il voit un radar, il peut prendre de façon autonome la décision d'attaquer. Donc, vous voyez que les drones, pour l'instant, la plupart sont contrôlés par des humains, mais on commence à en faire des plus autonomes, des plus intelligents, si on veut, et évidemment, dans tout ça, le matériel de détection est essentiel et on revient à la fameuse caméra dont on parlait tantôt. C'est au centre de l'utilisation de ce genre de matériel-là.
C'est quoi l'avantage d'avoir des machines autonomes? On sauve le temps que ça prend pour prendre une décision quand ce sont les humains qui la prennent?
Oui, il y a deux sortes de passivité, là, d'autonomie. Donc, il y a l'autonomie passive hein, qui, grosso modo, on met des systèmes automatiques sur les navires, par exemple. Pour les défendre contre des missiles. Donc, ces machines-là vont attaquer une cible si elle attaque le navire. Et à côté de ça, on a comme le Harpy, hein, donc des systèmes qui sont offensifs, qui, eux, prennent des décisions pour éliminer des cibles, mais qui les attaquent pas nécessairement. Donc là, on a les deux. Pourquoi est-ce que c'est plus efficace? Bien, évidemment, des systèmes automatisés, lorsque des nuées de missiles tombent sur un navire, par exemple, les machines répondent beaucoup plus vite, beaucoup plus de façon beaucoup plus précise, et c'est pour ça qu'on cherche à développer ce genre de matériel-là. Ceci étant dit, je regarde ce qui se fait aux États-Unis, on est loin de la coupe aux lèvres là, dans la mesure où l'armée, la marine et l'aviation sont très réticentes à utiliser des machines qui sont autonomes et même subventionner la recherche. Il y en a, là, il y a des immenses budgets pour ça. Mais ils pourraient en avoir des plus gros et on sent que les militaires sont pas très chauds à cette idée-là pour l'instant. Mais
parce qu'ils craignent des erreurs. Ils craignent qu'à un moment donné, la machine tire sur des populations civiles, par exemple.
Exactement. C'est très difficile hein, pour une machine de découvrir qui est un ami, qui est un ennemi. Donc, on prend un exemple fictif. Disons qu'un char d'assaut se promène, en Afghanistan, croise quelqu'un qui est armé devant lui. Bon, est-ce qu'il est capable de reconnaître l'uniforme? Est-ce qu'il est capable de se dire, bon, mais c'est un monsieur qui se promène avec son AK-47 et tout le monde en a un dans la ville, c'est normal? Est-ce que il a un comportement agressif, etc., etc.? C'est très difficile de programmer ça dans une machine, alors que pour un être humain, déjà là, il y a l'humain sujet à erreur, mais il y a déjà plus d'autonomie là, dans un cerveau humain que dans une machine. Donc, on est, comme je vous dis, on est loin là, d'avoir développé ce genre de machine-là là, et les mettre sur le champ de bataille.
Mais on s'entend, là, en conclusion, on s'entend qu'on se dirige de plus en plus vers des armées qui pourraient livrer combat avec un minimum de pertes humaines. Là. On fait de plus en plus confiance à la technologie et même aux robots. Là. On sait que ça s'en va vers ça. Là.
Oui, ça s'en va définitivement vers ça. On est en train de vivre une transformation dans la façon dont on fait la guerre. Et oui, on peut épargner des combattants parce que les machines vont être plus précises et seront contrôlées à distance, évidemment. Mais à côté de ça, le problème étant, bon, évidemment, celui de la sécurité dont vous parliez et celui de si les pertes sont pas graves, hein, si on perd seulement des machines, est-ce que ça pourrait pas encourager certains acteurs, particulièrement des acteurs non gouvernementaux, à être plus agressifs avec leurs machines? Donc, ça reste à voir, là.
Par exemple, des groupes terroristes.
Oui, absolument, absolument. Donc, des groupes extrémistes pourraient facilement armer ou en tout cas utiliser de façon offensive des drones.
Oui,
donc,
oui.
Donc, des machines comme ça qui ne coûtent pas très cher, qui sont faciles à lancer sur des cibles grosses comme des navires, pensons à des pétroliers, par exemple, ou des bâtiments, justement des bases, bien, effectivement, ça rend la guerre plus accessible, si on veut, ça rend la violence plus facile à utiliser. Là.
Francis Langlois, spécialiste de la question des armes, membre associé à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Merci.
Ça me fait plaisir, Bernard. Bonne journée.
Je tiens à préciser que c'est Marc Godbout, le journaliste de Radio-Canada, qui le premier a parlé de cette histoire. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. C'est ainsi que ça se termine pour aujourd'hui. Content de vous savoir là. On se retrouve demain, même heure, même poste. Bonne fin de journée, tout le monde. Bye.